France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le François de Pierre Lazareff.
François, c'est la dernière édition.
Monsieur, huitième dernière.
Un journal à bout de souffle, l'ultime édition papier, c'est peut-être demain. Combat, autre souvenir glorieux, avait titré son dernier numéro. Silence, on coule. Revenons, avant qu'il ne soit trop tard, à l'époque de la haute mer, du million d'exemplaires quotidiens, du grand vaisseau amiral François, amarré à Paris, sans rue Réaumur. Le capitaine, c'est alors, jusqu'en 1972, Pierre Lazareff. Il porte des bretelles, il se ronge les ongles, il jongle avec une demi-douzaine de téléphones. On a songé à Louis de Funès pour interpréter son personnage au théâtre, mais tout le monde sait que le petit homme tient un rôle immense. Jean-Claude Lamy, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été le premier biographe de Pierre Lazareff, alors que vous travailliez encore en 1975 à François. Vous êtes entré dans cette maison en 65. Il disait que les jeunes le rajeunissaient, Pierre Lazareff. Alors, son portrait physique.
Eh bien, Pierre, c'était un petit homme qui portait des bretelles, d'où son surnom Pierrot les bretelles. Il était chauve, mais dans sa jeunesse, il avait une crinière rousse. C'était le farfadet qui courait les théâtres.
Au feu, disaient les titis de Montmartre quand voilà. Il le voyait passer, le jeune homme roux.
Quand je le voyais, c'était un homme toujours agité, qui courait dans les couloirs, qui allait d'une salle de rédaction à l'autre, qui lançait des idées, qui s'agitait donc en permanence, une pile vivante. Et aux côtés d'un petit homme pareil, on avait envie évidemment de lui ressembler et de vivre son journalisme au quotidien, dans la chair, dans l'événement, dans la fureur du monde, quoi, finalement. Et Pierre, c'était le personnage qui m'a le plus marqué dans ma carrière de journaliste.
Il naît en 1907, il fonde son premier journal familial à 7 ou 9 ans. Vous, ça a été ?
Moi, ça a été à l'âge de 15 ans, quand j'étais au collège de Roumanie à Nyons. J'ai créé un petit journal qui s'appelait Le Potache.
Et lui, c'était le journal des bibis pendant la guerre de 14, Pierre Lazareff. Avant la guerre de 39, il est l'un des piliers de Paris Soir, le Paris Soir de Jean Prouveau. Il part pour les États-Unis en 1940, pas pour la France libre. Il sera colonel américain et il animera à destination de la France la Voix de l'Amérique. Et puis à la Libération, il assure la professionnalisation de défense de la France, un journal issu de la Résistance, comme Combat qu'on citait tout à l'heure. Et il en maîtrise ensuite parfaitement la captation aux grandes dames de la plupart de ses fondateurs, captation assurée avec le contrôle d'Hachette. Nous sommes maintenant en 1949. Il y a de grands titres qui ont beaucoup de succès chez Hachette. Elle, dirigée par Hélène Lazareff, la femme de Pierre, et puis François qui décolle.
Deux ministres, 10 parlementaires, les directeurs de journaux, le directeur de la radiodiffusion, le gouverneur de la Banque de France et le tout Paris des grands galas se pressaient, ou plutôt se tassait, le mot n'est pas exagéré, au cabaret des ambassadeurs. La salle était trop petite pour contenir les invités de Pierre Lazareff et les collaborateurs de François qui célébraient sa fête annuelle. En une nuit, les spectateurs virent défiler sur la piste tout ce que la France compte de grands numéros de music-hall.
La soirée est radiodiffusée par la radiodiffusion française. Tu as droit à deux micros, tu te chantes là-dedans, tu te débrouilles avec les deux micros, tu t'es à servir, oui.
Lynn Renault, qui portait une robe rose entièrement plissée, chanta 6 chansons.
Un petit pas, à la va comme je te pousse, un petit pas, et puis une grande secousse. Ne me laissez pas faire seul les premiers pas, suivez-moi pas à pas, on recommence un petit pas. à la va comme je te pousse, voilà la vie de...
Lynn Renault, déjà, et vous voyez, les jeunes le rajeunissaient, mais enfin, il malmenait la jeune Lynn Renault. On va faire à grands pas. Vous allez nous raconter, Jean-Claude Lamy, d'abord, comment s'ouvrait le journal à la haute époque, la Une.
Déjà en 1949, le journal vendait à près de 600 000 exemplaires, grâce au savoir-faire de Pierre Lazareff et de l'équipe qu'il avait rassemblée autour de lui. La Une, c'était la vitrine de François. François avait 7 éditions quotidiennes. Et la Une, il y avait le grand titre, les 5 colonnes à la Une, qui sera repris plus tard dans l'émission de télévision. Et la Une, c'était forcément l'événement majeur du jour, le fait divers, l'effet politique, une grande photo, l'annonce aussi en première page de la rubrique de Carmen Tessier, Les potins de la Commère, qui se trouvait en page 2.
Ah, en page 2, parce que c'est là que vous avez débuté.
Ah oui, c'est là où j'ai commencé à François. J'ai travaillé avec Carmen Tessier. Dès mon arrivée au journal, elle avait réuni autour d'elle une équipe de jeunes gens.
C'était des écotiers. Pierre Lazareff, d'ailleurs, lui-même, il avait commencé en recueillant des échos.
Bien sûr, parce que Pierre Lazareff était un homme d'écho. Hein, et l'écho dans ses deux visions, je veux dire, il faisait écho aussi à tout ce qui se passait, ce que le journal devait répercuter. Et il faisait des échos dans les coulisses des théâtres, quand il était jeune journaliste à Paris Midi, par exemple. Mais au Potin de la Commère, l'écho, c'était quelque chose d'important, c'était de réunir en quelques lignes une information exacte. Et c'était la rubrique la plus lue de France, qui touchait absolument tous les domaines, mais du côté anecdotique. Et j'ai collaboré très longuement et j'ai appris vraiment mon métier de journaliste dans cette rubrique.
Alors le modèle, c'était peut-être Elsa Maxwell aux États-Unis, mais la maîtresse femme qui tenait cette rubrique, qui fut votre première patronne, Carmen Tessier.
Service original dont le succès reste constant depuis 13 ou 14 ans, il s'agit des potins de la Commère. Carmen Tessier, qui dirige et anime cette rubrique, est certainement une des femmes les plus connues de France.
Je ne suis pas méchante, je suis ironique, aussi souvent que je peux. D'ailleurs, il y a des limites à la méchanceté dans les journaux, vous savez, les limites de la correctionnelle. On dit, justement, votre chronique ne doit pas être très bonne parce que vous n'avez jamais été poursuivi. Plutôt, si, j'ai été condamnée une fois, une femme assez connue, et qui m'avait confié qu'elle avait eu un enfant par l'insémination artificielle. Et puisqu'elle me l'avait dit, je l'avais écrit. Cet enfant était d'ailleurs beau, elle était ravie, contente, et je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de dire ça. Mais j'ai fait à la petite fille un très joli livret de caisse d'épargne.
Alors, la petite dame de la page 2, qui est votre patronne, et puis après, les infos gênées, la place du fait divers, c'est essentiel. C'est ça qu'on identifie
bien
François.
Bien sûr, le fait divers, c'est essentiel. Et Pierre Lazareff avait autour de lui des faits diversiers de grande qualité. Le fait divers, et il y en avait en permanence, et ils étaient traités aussi à travers les individus, les hommes. Je veux dire, pour Lazareff, il fallait faire passer les faits à travers une histoire humaine. Et les histoires humaines ne manquaient pas, et ça pouvait aussi ressembler un peu à des feuilletons. Hein, quand il y a eu l'affaire Dominici, par exemple, à l'URSS, ça a duré près d'un an, hein, où on avait envoyé Maurice Josco. Et puis, des équipes de François, des photographes, il y a eu à ce moment-là le feuilleton Dominici.
Oui, mais vous insistez sur l'exactitude pour les faits divers, pour les échos tout aussi bien, mais le titre pouvait être affirmatif, la dégoulinante, le sous-titre circonspect, et souvent on ne trouvait la vérité que dans le texte intérieur.
Le titre devait accrocher le lecteur, évidemment. C'était pour appâter le lecteur, mais le titre ne contredisait pas l'article qu'on pouvait lire. Moi, à ma connaissance, Lazareff ne l'aurait pas permis, et les secrétaires de rédaction faisaient très attention, puisque c'était lui qui était attentif à la Une, et il n'aurait pas accepté qu'il y ait une information fausse à partir d'un titre accrocheur.
Le traitement du fait divers pouvait quand même aller jusqu'au harcèlement. Voici l'exemple de l'enlèvement d'Éric Peugeot, le fils de l'industriel Roland Peugeot. Juste une anecdote, aucune anecdote n'est sans importance. C'est grâce à cette affaire que Ladislas de Hoyos, avant d'être à France Inter, est entré à...
Absolument. Ladislas, passionné de journalisme, un jeune homme, il était le beau-fils du docteur Varré, médecin de Pierre Lazareff. Et Pierre Lazareff avait eu rendez-vous donc avec son médecin. Et au cours du rendez-vous, une personne est arrivée et leur a annoncé l'enlèvement du petit Peugeot, Éric Peugeot à Saint-Cloud.
Alors là, Lazareff, ça survolte aussitôt, Lazareff. Ouais.
Survolte Lazareff, il fonce au journal, évidemment. Et le docteur Varré lui dira un petit peu plus tard, je t'ai donné un scoop, je voudrais que maintenant tu puisses faire de mon beau-fils un journaliste. C'est Ladislas de Hoyos, il a été engagé aussitôt à France Soir.
Et il avait intérêt à se tenir bien ensuite dans les événements qui ont suivi face à la concurrence. Parce que rentrer là pour traiter l'enlèvement d'Éric Peugeot, je suppose que... Lazareff avait pris ses 6 téléphones, avait mis tout le monde
sur le pont,
et voici ce que ça donnait.
Midi, actualité.
La nuit fut une nuit de veille. Dès 21h, de nombreuses voitures stationnées de part et d'autre de l'avenue Victor Hugo, à leur bord, tout le gotha des journalistes et photographes de la capitale. À minuit 30, première alerte. Un couple sorti du 170 s'engouffra dans une 403 qui démarra en trombe. La meute menait la chasse. 10 minutes plus tard, on vit revenir la voiture pour chasser. Elle stoppa brutalement à l'endroit où nous nous trouvions. Une élégante jeune femme en descendit. « Je suis la sœur de Roland Peugeot », déclara-t-elle. « Messieurs les journalistes, je vous en supplie, si vous voyez mon frère sortir cette nuit, ne le prenez pas en chasse. La vie d'un enfant en dépend. » Tous les journalistes présents promirent de ne point intervenir, si tel était le cas. À 1h30 du matin, sortit un homme jeune. Il portait une mallette à la main. Il saute en voltige dans une 403 décapotable. À l'étoile, prenant le maximum de risques, il réussit à lâcher ses poursuivants. On le perdit alors de vue. À 9h30, M. Roland Peugeot, montant dans une voiture de sa marque, une voiture grise, partit en direction du bois de Boulogne. Non sans avoir répondu aux journalistes qui le pressaient de questions, « Surtout, messieurs, respectez votre parole, ne me suivez pas, ne me demandez pas où je vais. »
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le monde est un spectacle, il nous faut des miracles, des meurtres, des amants et des enterrements. Chantons les marionnettes, les princes des manchettes, que l'on anoblira grâce à la caméra. Tournées rotatives pour les âmes sensitives. Il me faut pour tenir le coup une histoire à dormir debout. La commère bavarde lorsque le sang coule sur les fous, sur les foules. S'il va du bon côté, ça peut se raconter. Mais s'il peut faire tâche, de grâce qu'on le cache sous la soie des papiers des mariages princiers. Si les sorciers nous mentent et si la vie augmente, pourquoi crier à bas marquis de Carabas? Puisqu'à toutes les pages de nos revues d'images, pour nous réconforter, il y a ces chabotés. Tournez, tournez, rotative.
Voilà la France ce soir, vue de manière morale par Guy Béard. Oui, mais c'est plus compliqué. Il y a une bipolarité. Jean-Claude Lamy, il y a les faits diversiers. Mais il y a aussi les 20 ou 25 correspondants à l'étranger. Il y a les très grands reporters qui pourraient appartenir au New York Times, mmh. Qui sont souvent de grands écrivains. Et Lazareff fait avec les deux.
Mmh. Parmi les grands reporters, Joseph Kessel, Lucien Baudard, Eugène Mannoni. Oui. Mais Lazareff, il avait besoin d'une grande équipe et il voulait les meilleurs. Et la bipolarité, elle se trouvait aussi à la tête du journal, puisqu'il y avait Pierre qui dirigeait et qui était toujours pro-gouvernemental. Il a eu peur au moment de l'arrivée de Gaulle, mais il était pro-gouvernemental. Et il y avait son bras droit, Charles Gombeau, qui était plutôt un homme de gauche. Donc il y avait une balance, si vous voulez, entre...
C'était même plus subtil, si vous me permettez, Jean-Claude Lamy. Enfin, vous avez connu ça à François, vous y étiez. Il y avait un alter ego à Charles Gombeau qui s'appelait Sam Cohen, oui. Et qui lui disait... toutes vos histoires de politique, c'est de la merde, ça se vend pas. Et alors Lazareff avait mis dans le même bureau Gombeau et Cohen, et une cloison coulissante partageait l'espace de chacun.
Sam Cohen, qui était le grand ami de Lynn Renault, qu'on a entendu tout à l'heure. Lazareff aussi, pour régner, il cherchait à diviser. Hein. Parfois, il y a eu des affrontements. Lorsque Jean Ferniaud, par exemple, est entré à France Soir, il a eu de grosses difficultés. Il a été obligé de repartir à un moment donné. Lazareff, c'est ça, je veux dire. C'est lui qui décide. Mais il laisse croire aux autres qu'ils vont prendre les décisions importantes. En réalité, c'est lui.
Tout se règle apparemment au chocolat. Le chocolat, c'est la conférence. Donc les secrétaires frappent aux portes, disent « conférence, conférence, conférence ». Et le petit homme est là, avec ses téléphones, toujours, et qui distribue la parole et attribue l'espace.
Il est là tôt le matin, puisqu'il y a un chauffeur qui vient le chercher dans sa propriété, la Grille Royale à Louveciennes. Il arrive à France Soir vers 7h, 7h30 du matin, et il prépare le journal Futur. Et c'est à ce moment-là que la machine, qui ne s'est jamais arrêtée, qui tourne 24 heures sur 24, mais va démarrer beaucoup plus vite, et poussée par Pierre Lazareff. Et le chocolat, c'est la réunion du matin. Tous les chefs de service sont présents. Ils annoncent le menu. Et Lazareff décide de l'importance d'une information et d'une autre avec ses rédacteurs en chef. Il y en avait beaucoup. On disait d'ailleurs qu'à un moment donné, François est devenu l'armée mexicaine. Hein. Il y avait beaucoup de généraux. Le général en chef est toujours Lazareff, jusqu'à la fin d'ailleurs.
Mais comment sentait-il ce que pensait le public populaire? Alors, il avait une méthode. Il venait de Louveciennes dans une belle voiture. À un moment, ce fut une Bentley. La tête dépassait à peine de la portière. Et il avait un chauffeur. Mmh. Et le chauffeur, c'était l'interprète de la Vox Populi.
Oui, il y avait Julien Gauthier, notamment, qui lui parlait de la vie. Mais lui, la ville, la santé, il est né à Montmartre, Lazareff. Il a tout de suite été un homme de la rue. Il sentait les événements. Je me souviens très bien que sortant du journal dans sa voiture, c'était à l'époque une DS à injection, il a fait quelques cent mètres rurés au mur. Tout un coup, il s'est arrêté. Il a demandé à son chauffeur de s'arrêter parce qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient là, qui semblaient discuter. Se passait quelque chose, c'était peut-être pas grand-chose, mais Lazareff s'est arrêté pour savoir ce qui se passait là. C'est ça l'information, et il sentait la pulsion de la vie, chez les gens.
Et comment être lu à la fois au Quai d'Orsay et à Belleville? Ça passe par le texte, avec l'image dans le texte, ça passe par l'image dans la page sous ses formes les plus diverses, la photo, mais aussi bien le dessin. Les amours célèbres, le crime ne paye pas, les grands feuilletons verticaux, il y avait Chéri Bibi aussi.
Oui, Chéri Bibi, c'est le feuilleton Gaston Leroux.
Vous êtes aussi un amateur de Gaston Leroux.
J'aime beaucoup Gaston Leroux. Et Gaston Leroux était un grand journaliste du matin. Et il a connu Pierre Lazareff en 1924. Il a vu dans ce jeune farfadet un personnage extraordinaire. Il voulait lui faire jouer Rouletabille au cinéma. Ça ne s'est pas fait, mais Leroux a toujours appelé Pierre Lazareff Rouletabille numéro 2.
Ils ont tous peur de Chéri Bibi. Les chocottes, voilà ce qu'ils ont tous. Les chocottes. Je vous ai juré qu'ils n'ont même pas osé le condamner à mort. Ils ont tous peur de Chéri Bibi. Tous.
Il est de bon ton de suivre minutieusement les aventures d'Arabelle ou de Chéri Bibi. Telles qu'elles sont, elles amusent, elles informent, elles évoquent. Elles constituent simplement un formidable élément de distraction. Beaucoup de gens qui ne liraient jamais un journal achètent France Soir pour ses bandes. Ils ne lisent pas que ses bandes et parcourent ou lisent attentivement le reste du journal. Ainsi, ce lecteur qui, sans les bandes, ne serait au courant de rien, qui n'achèterait vraisemblablement aucun journal, est quand même informé de ce que tout homme de son temps doit connaître.
Je suis profondément persuadé que la photographie ou les dessins étaient absolument essentiels si l'on pense, comme je le pense, que les élites se recrutent toujours dans la masse et si on voulait essayer d'approcher des lecteurs toujours plus nombreux. C'est grâce aux images que beaucoup de gens ont lu. Il est absolument évident, par exemple, que pour la grande masse des gens, la guerre de Corée, ça sera toujours cette photo prodigieuse du petit enfant coréen perdu, les bras ouverts et pleurant sur une route seule et solitaire. C'est ça qui symbolise pour la plupart des gens la guerre de Corée. Les événements de Hongrie, c'est une photo prise dans la rue sous un bec de gaz. C'est parce qu'ils ont été attirés et intéressés par les images qu'ils voyaient qu'ils ont eu le courage de lire, alors que d'habitude, ils n'en avaient pas ni l'envie ni l'occasion.
Lazarev qui va et vient devant le micro, on l'imagine avec sa pipe, mais elle était bourrée de coton hydrophile, hein,
oui,
pour le protéger de l'aérophagie, mais aussi de la tabagie. Oui. Et l'image mouvante, justement, le cinéma, vous vous êtes occupé de culture, plutôt des livres, le cinéma c'était Chazal, le cinéma, qu'est-ce que c'était pour lui?
Très important, le cinéma, il allait très souvent au cinéma, il a toujours été dans les salles obscures, il voyait tous les films, il assistait à des projections privées, il a même mis de l'argent dans des films à travers Mac Baudard, la productrice, qui était une amie proche, qui avait été l'épouse de Lucien Baudard. Donc le cinéma était là en permanence, on pouvait voir Lazarev sur des plateaux de cinéma.
Une amie proche parlait comme Lazarev. Lazarev n'aimait rien tant que les histoires d'amour. Votre dernier livre s'intitule « Les dieux créa les femmes », on y trouve beaucoup de personnages féminins importants, et il y avait beaucoup de personnages féminins importants du XXe siècle qui ont gravité autour de Lazarev. L'autre histoire qui l'intéressait en permanence, c'était celle des femmes.
Bien sûr, et c'était un grand séducteur. Je veux dire, pas par sa beauté, évidemment, comme Sartre l'a été aussi, un grand séducteur. Eh bien, il était entouré de jolies femmes. Il lui arrivait parfois d'avoir trois rendez-vous au même moment. Je ne peux pas dire que c'était au détriment d'Hélène Lazarev qui occupait le cinquième étage dans les locaux de Elle, mais le couple avait pris ses distances. Mais de façon professionnelle, ils étaient constamment unis.
C'est avec Hélène qu'il se rend en novembre 1954 en Algérie pour aller rejoindre, parce qu'elle joue au théâtre là-bas, une maîtresse de Pierre. Et les événements d'Algérie commencent. À ce moment-là, il va les suivre de très près. Ça le passionne, une révolte qui roule, des récits et des cris venus de la nuit, des temps, ne peut que l'intéresser. Et puis, après l'insurrection, 4 ans plus tard, c'est le coup d'État du 13 mai à Alger.
La ville s'est réveillée brutalement à 15h et c'est par centaines, par milliers que des groupements patriotiques, d'associations, des collégiens, des lycéens, des parachutistes, des territoriaux et des civils portant des drapeaux d'anciens combattants, je pense, qui montent vers le monument aux morts, escortés par une véritable marée de personnes, de jeunes gens, de femmes, d'enfants. On voit les têtes qui bougent et qui s'avancent le long du boulevard La Ferrière sur le chemin du monument aux morts. C'est véritablement très impressionnant.
Alors là, c'est la catastrophe pour Lazarev, qui était du côté Roosevelt pendant la guerre, qui était très proche de tous les hommes importants de la 4e République. Il paraît que François Mitterrand alimentait les potins de la Commère.
Absolument, il y avait une coupe François des potins de la Commère qui avait gagné d'ailleurs François Mitterrand.
Oui. Et Lazarev craint le retour du général de Gaulle, et il avait dit peu d'années auparavant, qu'il songeait même peut-être à s'exiler de nouveau. Enfin, qu'il ne voyait pas comment il pouvait rester à la tête de François avec le général à la tête de l'État. Oui. C'est pourtant ce qui se produit dès le 20 mai.
Il voyait en De Gaulle une sorte de dictateur. Il avait peur qu'il s'établisse une loi des reins. Mais très rapidement, il s'est aperçu que ce n'était pas le cas et il est devenu un grand gaulliste, aussi gaulliste que pouvait l'être, par exemple, François Mauriac.
Oui, attendez, le 20 mai, il dit au chocolat, devant la rédaction absolument stupéfaite, et son ami le socialiste Charles Gombeau furieux, « Apprenez, messieurs, que je suis dorénavant gaulliste. » Mais c'est par intérêt, par opportunisme ou parce qu'il s'est rendu compte que le général de Gaulle pouvait se passer de François, il avait le contact direct avec le peuple.
Mais Pierre Lazarev ne pouvait pas se passer du général de Gaulle. Et les informations, il en avait besoin. Il fallait qu'il soit proche du pouvoir. Et il a été reçu d'ailleurs par De Gaulle et Madame De Gaulle à l'Élysée à l'occasion d'une réception. Il était accompagné d'Hélène Lazareff.
Oui, mais ce n'était pas une audience particulière.
Ce n'était pas une audience particulière. Il n'en a pas eu, d'ailleurs, d'audience particulière avec le général, qui prenait ses distances vis-à-vis de Pierre Lazareff. Lazareff Roosevelt, hein, faut pas l'oublier. Et retour d'Amérique, d'ailleurs, il est passé par Londres, mais il n'a pas rencontré De Gaulle à ce moment-là.
Alors là, il est invité à un déjeuner avec d'autres. Il s'en fait une joie et...
Il s'en fait une joie, mais il est là aussi pour recevoir, écouter des informations. Et lui, il va en recueillir, comme il faisait ses fameux déjeuners à Louvciennes chaque dimanche, où tout le monde politique, artistique, littéraire était présent.
Alors là, il y avait Jacques Chaban-Delmas, Georges Pompidou était très proche aussi de Pierre Lazareff, faute d'avoir le numéro 1, il avait le numéro 2. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, arrivons maintenant au déclin, 69-72, Cinq colonnes à la une qu'il a fondée n'existe plus, c'est une grande détresse pour lui, il commence... à être malade. Qu'est-ce qu'il dit à son avocat, Maître Floriot, quand il tombe malade ?
Maître Floriot, qui était un grand ami de Lazareff, va le voir à l'hôpital américain. Et Pierre, qui était blanc, blême, qui allait mourir dans quelques jours, a dit à René Floriot « Je voudrais que tu me fasses condamner à vie ».
Alors, dans les mois précédents, il essayait de rabibocher Georges Pompidou, le président de la République, et Jacques Chaban-Delmas, son premier ministre. Ça lui donnait encore un rôle très important, mais le déclin avait commencé pour François. En 69, il faut changer la manchette. On est au-dessous du million d'exemplaires. Et en 71, on réunit le personnel pour lui dire qu'il faut faire des économies, parce qu'on roulait grand train jusque-là. Hein.
Ah oui, on roulait grand train, on n'hésitait pas, l'argent coulait à flot.
Oui. Mais en fait, le verre était peut-être dans le fruit beaucoup plus tôt. Souvenez-vous du premier moment où le million d'exemplaires est franchi. C'est l'année 53, l'affaire Dominici, une année très faste, et puis le couronnement de la reine d'Angleterre.
Pour la sixième fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Partie de Buckingham Palace, le carrosse historique où ont pris place la reine et le duc d'Édimbourg se dirige vers l'abbaye de Westminster entre deux haies d'une foule telle qu'on n'en vit jamais. 3 millions de spectateurs sont en effet debout sur le passage du cortège.
Pour le couronnement de la reine d'Angleterre, on avait envoyé 8 personnes à Londres. 8 correspondants, dont François Giroud d'ailleurs. Et pour la première fois à François, on avait loué une télévision. Alors on était tous à regarder ça, et tout d'un coup, le chef du service étranger, une idée d'ailleurs géniale, il me dit « Henri, prends ton crayon et couvre-moi la première édition ». Alors j'ai fait le papier en regardant la télé. Moi je voyais, j'étais sur les genoux de la reine pendant la cérémonie, tandis que nos pauvres correspondants, ils étaient au fin fond de l'église, et c'est, pour le pauvre, la reine était un petit point rose. Et Lazareff est arrivé, et il m'a dit « c'est une boîte magique ». Et je lui ai répondu « je me souviens, vous trouvez, moi je trouve qu'elle ressemble à un cercueil ».
Point de vue prémonitoire, dès 53 d'Henri de Turenne.
Oui, c'est la télévision qui a tué François, ça c'est clair. Quand il y avait un grand événement, on descendait de chez soi pour acheter le journal, et après, on remontait chez soi pour tourner le poste de télévision. Et Cinq colonnes à la une, c'est François à la télé. Donc l'image a pris le pas sur l'écrit à ce moment-là. Et Pierre Lazareff l'avait d'ailleurs très bien senti, puisqu'il est le créateur de cette fameuse émission de télévision.
C'est l'homme témoin du passage de l'écrit à l'image. Merci à vous, Jean-Claude Lamy, votre première biographie de Pierre Lazareff n'est plus disponible, mais chez Albin Michel, on trouve Pierre Lazareff à la une, c'était le titre « Et Dieu créa les femmes », où on rencontre beaucoup d'épouses ou de maîtresses ou de proches ou d'amis de Pierre Lazareff. L'émission a été préparée par Meryl Moneghetti, Franck Olivard, Frédéric Martin, réalisée par Jacques Sigal, avec à la production Élodie Royer et Ludivine Caron.